Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a prêché l'humanisme et la tolérance entre les communautés en cultivant le vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire national. C'était à l'issue de la clôture de la première conférence interprovinciale entre les gangs Katanga et les gangs Kasai, intervenue le 29 avril dernier à Lubumbashi. Le président de la République avait encouragé les forces vives du gang Katanga et du gang Kasai à cultiver la fraternité et promouvoir le vivre ensemble. De son côté, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, a appelé jeudi 2 juin dernier sa population à s'abstenir d'actes de xénophobie, de haine et de violence envers les étrangers vivant dans sa province. Il a lancé cet appel à Bukavu au lendemain de la manifestation de la société civile soutenant les FRDC. Théo Ngwabidje a dit également avoir lancé cet appel à la suite des tensions observées entre la RDC et le Rwanda, accusés de soutenir les M23 dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo au nord Kivu. Pour sa part, la chef des bureaux terrain de la MONUSCO à Goma, Leila Boril, a salué lundi 6 juin dernier les messages de paix des 6 communautés du nord Kivu. Elle a exprimé son satisfait à l'issue d'un café de presse organisé par la mission onusienne à Goma au nord Kivu. À travers cette activité, la MONUSCO a voulu notamment conscientiser les représentants de ces communautés après les tensions observées depuis la reprise des combats entre les FRDC et le M23. Que pensez-vous de ces appels à la cohabitation pacifique et que faire pour prévenir les discours de haine? C'est l'objet de cette émission et nous recevons Patrick Muyaya, il est ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre Patrick Muyaya, bonsoir.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Professeur Nopes Kibiswa, il est docteur en analyse et résolution des conflits, maître en études de paix et justice. Il enseigne dans les universités catholiques du Congo, de Bukavu et aussi à l'ISTEM Kinshasa. Bonsoir professeur Nopes Kibiswa.
Bonsoir Guy Maté et bonsoir à tous les auditeurs et à son excellence monsieur le ministre Patrick Muyaya.
Et ici au studio nous avons Abdelaziz Ntioy, il est directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Bonsoir monsieur Abdelaziz Ntioy.
Bonsoir Guy et bonsoir à mes co-débatteurs ce soir. Excellence monsieur le ministre et également au professeur.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Depuis un certain moment, il ne se passe pas un jour en RDC sans qu'on enregistre des messages et qualifier des discours de haine, notamment sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la montée de ces phénomènes? On écoute cet entretien entre Cynthia Bachizi et Dona Madimba.
Cynthia Bachizi, bonsoir.
Bonsoir, Dona Madimba.
Comment se présente la question du tribalisme, de l'intolérance et du discours de la haine en République démocratique du Congo à ce jour?
Alors, Dona, il faut dire que depuis quelques semaines, si pas quelques mois, on assiste vraiment à ce que l'on peut qualifier de prolifération des propos susceptibles d'attiser la haine. Ce sont des propos bien souvent discourtois et haineux, non seulement à l'égard des étrangers, mais aussi entre les citoyens congolais de différentes provenances ethniques. Ces discours haineux se sont amplifiés depuis la reprise des combats entre les FRDC et le M23. Donc cette situation a poussé plusieurs autorités, plusieurs organisations de la société civile, mais aussi des acteurs de l'ONU, de la MONUSCO, à sensibiliser contre cette intolérance de l'autre et sur l'importance de l'unité.
Cynthia Bachizi, comment gérer cela, y mettre fin? Existe-t-il des pistes de solutions?
Des observateurs avertis disent que le plus grand problème, hein, vraiment dommage, ce sont les tireurs des ficelles. Ce sont donc ces forces nuisibles qui contribuent à attiser le feu entre les communautés en coulisses pour des intérêts bien souvent propres, personnels. Alors c'est ainsi que plusieurs experts, analystes, préconisent l'organisation des dialogues sociaux entre communautés pour conscientiser sur le fait que on a plus à gagner qu'à perdre en étant unis. Et pour que cela soit une réussite, il faut que toutes les couches, toutes les forces vives s'impliquent.
Alors, les appels à vivre ensemble, vous les avez déjà mentionnés. Mais que penser de tous ces appels à vivre ensemble? Ces appels sont-ils sincères et peuvent-ils vraiment permettre de régler ce problème?
En tout cas, Donna, vous conviendrez que ce problème eh bien, est très complexe. Hein. C'est clair que ce n'est pas du tic au tac que cette question pourra être résolue, mais ces différents appels à l'unité peuvent aider déjà à baisser la tension. Quand, par exemple, le gouverneur du Sud qui vous appelle ses citoyens à éviter tout acte de xénophobie, quand la chef de bureau terrain de la MONUSCO à Goma a salué les messages de paix de 6 communautés du Nord Kivu, quand la société civile de Butembo au Nord Kivu a invité les autorités urbaines et toutes les structures citoyennes à sensibiliser sur l'unité et la cohabitation pacifique, quand au Katanga, il y avait même eu une grande table ronde pour l'unité des Kassaïens et des Katangais. Donc toute cette mobilisation aidera tant soit peu vraiment à baisser la tension. Mais bien évidemment, cet appel à mobilisation, cet appel à l'unité doit être couplé avec d'autres solutions idoines.
Cynthia Bachizi, je vous remercie.
Merci beaucoup, Donna Medina.
Merci à vous, Cynthia Bachizi et Donna Madimba. Monsieur le ministre Patrick Muyaya, je rappelle que vous êtes ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement congolais. Et on va commencer par définir le concept. Qu'entendez-vous par discours de haine?
Bon, écoutez, le concept peut être vague, hein, parce que Madame Cynthia l'a exprimé tout à l'heure. Vous savez, chez nous, les tribus ont des caricatures. On dit par exemple que les Baluba sont des vantards, les Bakongo, Bakabakate, des choses comme ça, ça peut être défini de plusieurs manières, ça peut être perçu de différentes manières, ça dépend dans quelles circonstances et dans les cadres où cela est dit. Mais ici, le plus important pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que quoi qu'il en soit, que l'on ne recourt pas à des discours de ce type. De toute manière, parce que le plus souvent, c'est lorsque les hommes politiques, sur un certain nombre de sujets, ne sont pas forcément pleins d'arguments, qui recourent à ces replis, parce que tout ce qui concerne la tribu, tout ce qui concerne l'ethnie, c'est des replis qui, de notre point de vue, ne concourent pas à l'édification de l'unité nationale. Et donc, pour nous, comme gouvernement, nous nous lèvons droit contre tout type de discours caricatural ou des discours qui peuvent être perçus comme étant une expression déguisée de haine, de tribalisme, d'ethnicisme ou même de racisme.
Abdelaziz Tchoy, vous êtes ici au studio. Je rappelle que vous êtes directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous également, comment vous définissez les discours des haines?
Écoutez, comme l'a souligné le ministre Muyaya, il est clair qu'il n'existe pas de droit international. Là, c'est ce qui nous sert d'élément de référence. Il n'y a pas une définition arrêtée de ce que c'est qu'un discours de haine. Le début de caractérisation que nous avons, et que nous avons d'ailleurs indiqué dans le rapport que nous avons publié en mars 2021, se réfère à la stratégie du secrétaire général, où effectivement, comme l'a dit le ministre, on parle de tout type de communication, qu'il s'agisse d'expressions écrites ou orales, comportements qui constituent une atteinte ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité. On en a parlé. Ou en deux termes, de l'appartenance religieuse ou de l'origine ethnique, de la nationalité, de la race, de la couleur de la peau, de l'ascendance. Donc, tous les éléments sont réunis avec ce que nous avons observé au cours, disons, de ces derniers mois. Véritablement pour nous, c'est depuis 2021 ou au-delà. Mais de ce qui nous sert aujourd'hui de cadre d'expression, de la situation qui nous interpelle aujourd'hui et ce que nous avons vu naître à l'occasion des affrontements entre l'armée congolaise et la rébellion des M23, où nous avons vu effectivement surgir et proliférer, comme l'a dit Mme Cynthia, des discours qu'on peut qualifier d'incitatifs à la haine et à la violence, à la discrimination et à l'hostilité.
Professeur Nopes Kibiswa, docteur en analyse des résolutions de conflits, maître en études de paix et justice, et vous enseignez dans les universités catholiques du Congo, de Bukavu et aussi à l'ISTEM et Kinshasa. Quelle est la définition que vous donnez à ces termes discours de haine?
Merci beaucoup. Je ne veux pas aller trop loin. C'est simple, il faut seulement prendre les éléments que M. Abdoulaye Tiori vient de donner, mais j'ajoute que un discours de haine, d'abord la haine elle-même, c'est ce sentiment qu'une personne peut avoir envers un autre, un sentiment d'aversion, un sentiment de rejet, un sentiment de répugnance, de rancœur, qui consiste à vouloir du mal à la personne ou au groupe de personnes dont il est question, ou à le mépriser. Ça, c'est la haine qui regarde une personne d'en bas, avec condescendance, ou tout simplement être jaloux de l'autre personne. À ce moment-là, c'est une haine qui est dirigée contre quelqu'un ou un groupe de personnes qui se trouverait dans une position plus ou moins supérieure de sa propre situation. Alors, il faut considérer tous ces éléments-là dans les deux sens, d'en haut ou d'en bas, mais avec comme résultat hostilité, aversion, rancœur.
Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, nous l'avons rappelé, au mois d'avril dernier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait initié la conférence interprovinciale entre les Grands Katanga et les Grands Kasaï. Récemment, au Nord Kivu et au Sud Kivu, les autorités de ces deux provinces ont lancé des messages appelant à la tolérance et à la cohabitation pacifique des communautés. Et quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette montée subite de la xénophobie et qui semble se traduire, n'est-ce pas, à travers les différents messages de haine?
Bon, il y a plusieurs raisons, parce que vous évoquez des cas qui sont distincts. Quand vous parlez du Katanga, quand vous parlez de Kivu, quand vous parlez d'autres provinces, c'est des cas qui sont différents. Par exemple, ce qui concerne les deux grandes provinces, l'ex-Grand Kasaï et l'ex-Grand Katanga, il y a ces migrations, ces mouvements de population qui sont arrivés à Lubumbashi et qui posent problème pour ceux qui sont originaires de cette partie du pays. C'est à ce titre que le président de la République pour revenir, parce que malheureusement, dans notre histoire, nous avons déjà expérimenté ce que peuvent générer les discours de haine. Je ne voudrais pas parler de l'épuration sachaïde, de ce qui s'était passé dans le Katanga après les années 90, si ma mémoire est bonne. Mais l'idée était de prévenir, et c'est le rôle du gouvernement, de réunir les différents gouverneurs de 5 provinces du Kasaï ou de 4 provinces de l'ex-Katanga pour qu'ensemble ils puissent adresser le problème. Ça veut dire identifier les causes des colères, pourquoi les populations se déplacent, et voir dans quelle mesure on peut commencer à y répondre pour donner des solutions durables. Aujourd'hui, dans ce qui s'observe à l'Est, évidemment, avec les bruits de bottes et le soutien avéré du Rwanda derrière les M23, très souvent, lorsqu'il y a des cas, les populations Tutsi, Hutu, que nous avons chez nous, sont à tort prises à partie, étant considérées par certains comme étant de l'autre côté. Et donc, toutes ces raisons, nous les connaissons parce que nous l'avons vécu par le passé. Et aujourd'hui, nous tous, nous avons déjà vu que l'extrémisme ou les recours au discours de haine ne règlent aucun problème. Au contraire, ça nous retarde parce que le Congo, pour son développement, a besoin d'une unité et de la cohésion. C'est pour ça que le gouvernement de la République, avec le président de la République lui-même en tête, passe le message de paix à chacune des occasions et invite les uns et les autres à toujours transcender les divergences et nos clivages pour aller vers le centre qui va nous permettre de trouver des solutions et de voir comment ensemble on règle le problème de nos populations. C'est cela le plus important pour nous au niveau du gouvernement.
Il y a des experts qui pensent que c'est un phénomène qui est souvent latent dans certaines sociétés et qui tend, n'est-ce pas, à prendre de l'ampleur lorsque le gouvernement qui est censé faire respecter la loi, qui est censé réguler la vie en société, s'est fait absent ou banalise ces phénomènes. Bon, on sait que ce n'est pas le cas pour la RDC parce que on a vu l'initiative prise par les chefs d'État récemment, et notamment à Lubumbashi. Mais est-ce que après la conférence de Lubumbashi, un suivi avait été assuré pour notamment évaluer l'impact de cette conférence sur la cohabitation des communautés?
À la suite de la conférence de Lubumbashi, il s'est tenu une conférence de réconciliation intra-katangaise. Mais c'est aussi dans les mêmes ordres, hein, parce que lorsqu'il y a des problèmes, il faut savoir les aborder. Mais toute évidence, cher ami, il faut aujourd'hui savoir que du côté du gouvernement, il y a une volonté politique manifeste de reconstruire le pays, et on ne peut pas reconstruire notre pays sans qu'il n'y ait de paix. Et justement, pour que nous puissions aller vers la paix, il faut aller au-delà des discours. Donc, le président de la République, après avoir ouvert ses travaux aujourd'hui, il y a un comité de suivi composé des gouverneurs de deux bords qui s'assurent au quotidien que les recommandations qui ont été mises sur la table puissent être implémentées. Et c'est celles-là qui permettront, dans un délai, parce qu'on ne saura pas dire dans un mois, dans deux jours, dans trois jours, mais ce qui permettra dans le jour qui vient de juguler les principales causes de cette montée, je dirais, de sentiments, de colère dans les chefs des uns et des autres, parce que moi, je ne voudrais pas être de ceux qui pensent qu'il y a de la haine qui se dissimule, non, sans doute de frustration qui, si elles ne sont pas canalisées et bien prises en charge en amont, peuvent conduire à des situations déplorables.
Aussi bien le Katanga, le Kasaï, le Nord Kivu, le Sud Kivu et toutes les provinces de la RDC, on a l'impression que ces messages de haine viennent des fois des hommes politiques. Mais on a aussi l'impression que rien n'est fait pour sanctionner ces personnes qui sont identifiées comme étant auteurs, n'est-ce pas, de ces discours de haine.
Écoutez, il n'y a pas à nous tromper, parce que la République démocratique du Congo, nous faisons face à beaucoup de défis, et ça fait une bonne vingtaine, dizaine d'années que des solutions n'ont pas été trouvées. Mais pour ce qui nous concerne, moi qui vous parle, je suis le porte-parole du gouvernement, en aucune occasion, vous ne nous avez vu tenir des propos qui peuvent prêter à confusion d'aucune manière. Et nous condamnons quotidiennement et régulièrement tout type de propos qui va dans le genre. Parce qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence des conflits communautaires. Le ministre de l'Intérieur nous en fait part régulièrement. Mais cela procède aussi, à mon avis, du fait des défis en termes d'économie, de pauvreté. Et les colères sont exacerbées parce que, Guy Maté, nous étions en République démocratique du Congo, entre les peuples, il y a toujours des rivalités, il y a toujours à des moments où il y a des conflits autour d'une rivière, autour, je ne sais pas, d'un animal qui est parti dans la forêt ou dans la partie de l'autre, mais ça ne devrait en rien justifier le recours à l'extrémisme, le recours à des discours de haine qui puissent être susceptibles de porter atteinte à la paix sociale que nous devons tous préserver à toutes conditions.
Merci, monsieur le ministre, qu'on vous garde encore dans cette émission. Monsieur Abdulaziz Thioy, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, il y a une opinion selon laquelle l'impunité est l'un des facteurs qui encourage ces phénomènes des messages de xénophobie, de haine. Est-ce qu'il existe dans le système des Nations Unies des mécanismes juridiques auxquels on peut recourir pour justement décourager ces comportements?
Ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, les terrains d'expression de ces messages et ces discours, ce qu'on peut qualifier de discours haineux, en réalité, se passent dans des espaces physiques jusque-là, c'est-à-dire à travers un journal, la presse écrite, la presse audiovisuelle, parler, télévision, si vous voulez. Et maintenant, de plus en plus, nous avons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui servent aujourd'hui de lieu d'expression et de diffusion de ces messages haineux. Donc, vous pouvez bien comprendre que c'est très difficile si, en dehors de l'espace physique qui a pour cadre un territoire, où il y a des autorités qui peuvent réellement mettre en action des règles de procédure et pouvoir sanctionner, il est difficile, de l'autre côté, pour l'espace virtuel, de pouvoir le faire. Mais cela ne nous limite pas. Il y a pratiquement tous les États ont signé les conventions, le pacte international sur l'état civil et politique, dont l'article 20 concerne précisément le droit à la liberté d'expression, parce que ce qui est en jeu, c'est de travailler sur les limites à la liberté d'expression. Parce que nous, ce qui nous intéresse au niveau des Nations Unies, c'est de nous assurer que, sous prétexte de lutter contre les discours extrémistes, xénophobiques, haineux, qu'on en vienne réellement à limiter la liberté d'expression. Donc c'est en ce sens-là qu'il est possible, évidemment, pour un individu, des groupes qui se sentent plus ou moins visés par ce type de messages, de saisir les mécanismes internationaux qui surveillent les conventions. Mais en réalité, ils n'ont pas la possibilité de venir contraindre un État. Donc c'est pour ça que l'action aujourd'hui est beaucoup plus sur les États pour légiférer dans un sens qui permette plus ou moins de prévenir d'abord, lutter et réprimer ce type de messages-là. Dans les pays européens, dans les pays occidentaux en général, ces actes-là sont érigés en infraction. Et c'est le lieu ici de le dire, parce que pour beaucoup, ce sont vos compatriotes qui sont dans la diaspora, qui sont les diffuseurs et ceux qui sont les plus actifs, hein, identifiés comme auteurs de ces messages-là. Évidemment, les pays à partir desquels ils diffusent ces messages sont érigés en infraction. Donc ils peuvent réellement faire face à des procédures judiciaires. En RDC, c'est un peu plus difficile, même s'il y a des décisions qui ont été rendues. Dans le cas du pasteur Mulunda, il y a quand même une décision qui a été rendue. Et il y a aujourd'hui une proposition de loi, il y a des efforts au niveau national de la part des autorités, et en cela je confirme le ministre Mouyaya, qui sont en cours aujourd'hui pour davantage corser et avoir des dispositions qui préviennent, luttent et répriment tout ce qui est discours haine, xénophobie et également tribalisme.
Un peuple comme le peuple congolais qui est exposé de manière quasi quotidienne à des informations faisant état des attaques incessantes, n'est-ce pas, de son territoire par des forces soutenues par des puissances étrangères, et comment peut-il gérer ces informations de manière à ne pas basculer, n'est-ce pas, dans la xénophobie, dans la haine?
Il y a tout un travail qui a été fait, hein. Ça, il faut que je le dise. Vous avez été l'année dernière le premier pays. Il y a une initiative régionale qui est en cours et dont la dernière étape aura lieu ici en fin juin. Vous avez été le premier pays dans cette initiative à avoir réellement abrité le colloque. Le colloque qui a vu effectivement une implication très forte de la présidence et du ministère de la Communication ainsi que du ministère des Droits Humains, qui a abouti à ce qu'on a à peu près appelé une sorte de feuille d'engagement qui a permis plus ou moins de développer d'autres ateliers au niveau du Cameroun, au niveau de la Centrafrique et bientôt au niveau du Tchad. Et la dernière étape, ce sera ici dans quelques semaines. Alors, l'objectif véritablement pour la RDC, d'engager les mécanismes de régulation et d'autorégulation. Régulation, vous avez ici les organismes de régulation, l'ARTP, les mécanismes de régulation, vous avez aussi le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Pour l'autorégulation, vous avez l'UNPC. L'UNPC est aussi engagé, nous avons organisé beaucoup de formations et le ministère de la communication y a participé, nous avons tous travaillé ensemble. L'idée est beaucoup plus de responsabiliser ce qui, réellement, les faiseurs d'opinion, les diffuseurs, pour davantage qu'ils respectent les cahiers des charges et identifient les lignes rouges à ne pas dépasser pour éviter effectivement de se retrouver dans des situations où effectivement on serait en train de diffuser ou de donner libre cours à la diffusion de ce type de message.
Professeur Nopes Kibiswa, docteur en analyse et résolution des conflits, maître en études de paix et justice, et enseignant dans les universités catholiques du Congo, de Bukavu et aussi à l'ISTEM Kinshasa. Comment peut-on distinguer un discours de haine d'un discours ordinaire? Par exemple, un discours à travers lequel on critique l'action d'un gouvernement ou l'action d'une personnalité politique avec peut-être des mots forts, sans pour autant verser dans l'animosité, dans la haine. Comment on peut faire la distinction, professeur Nopes Kibiswa?
Merci beaucoup, mais permettez-moi de dire quelque chose au regard de ce que les co-débatteurs venaient de dire. Il y a nécessité dans notre pays de conjuguer les quatre modes de traitement de ces genres de problèmes. Il y a la prévention, il y a la gestion, il y a la résolution et il y a la transformation. Il est nécessaire dans mon pays, dans notre pays, que l'autorité politique qui a la responsabilité de la paix de la nation puisse mettre en place des mécanismes de prévention pour ne pas rester toujours à réagir en mode post-conflit, mais plutôt accompagner la vie de la nation et des citoyens avec des mesures préventives. Et c'est dans les mesures préventives qu'il y a toutes ces questions de savoir identifier qu'est-ce qui est discours de haine. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Il faut le faire parce que nous sommes dans un pays qui a un contexte différent de là où l'on a défini un certain nombre de choses qui s'appellent haine. Il faut les classifier et savoir lesquelles atteignent les seuils que je vais expliquer plus tard, si vous le permettez. Il faut essayer de réguler, de faire en sorte qu'on puisse dire ça, si vous allez dans ces directions-là, messieurs, dames, vous êtes punissable, ainsi de suite. Gérer, ça veut dire, pendant que ces discours-là se font, il faut intervenir et dire, monsieur, madame, arrêtez-vous là, ne continuez pas. Là, vous êtes en train de gérer. Il faut résoudre, c'est-à-dire extirper les causes. Et là, l'ONU
dans son plan, sa stratégie, prévoit la lutte contre les causes et les moteurs. Et donc, il faut extirper les causes de cela. Et il y a les causes lointaines, les causes immédiates. Et par exemple, là, l'action du président Kagame avec les M23 au Congo est une cause immédiate et qui réellement est en train de jeter le germe de haine entre Rwandais et Congolais. Et ça, ça va poser problème plus tard. Et il faut absolument agir. Et je suis content que cette fois-ci, notre gouvernement a été ferme sur cette question-là. Et il doit rester ferme vis-à-vis du Rwanda sur cette question-là. Et transformer, ça veut dire il faut maintenant, lorsque on a fait tout ce que je venais de dire là, il faut faire maintenant en sorte que la situation change et que nous puissions utiliser les sources des conflits, les racines de tout ce qui amène les gens à la haine, les transformer en opportunités de développement. Donc ça, ce sont des choses qui manquent dans notre pays. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui n'est pas encore suffisant, c'est encore, à mon sens, superficiel. Les conférences, c'est une bonne chose, mais c'est passager. Je suis content d'entendre que son Excellence dit qu'il y a un comité de suivi, c'est une bonne chose, mais il faut que le comité de suivi reçoive les moyens pour aller plus loin vers les causes. Alors, la question que vous avez posée...
Comment distinguer un discours de haine d'un discours ordinaire? Quelqu'un peut se mettre en train, n'est-ce pas, de critiquer l'action d'un gouvernement ou d'une grande personnalité politique en utilisant des mots forts. Est-ce qu'on peut tout de suite qualifier ces discours-là des discours de haine?
Alors, là se pose le problème qui oppose les tenants de discours de haine et les tenants de liberté d'expression et d'opinion. Alors, il est possible, on peut voir très bien, dans les élans, dans les attitudes, dans les propos, dans les actes que la personne ou les personnes posent, on peut facilement voir que là, il y a une rancœur qui s'exprime, là, il y a une hostilité qui s'exprime, mais une analyse simple, objective, qui ne recourt pas à un excès dans les propos, dans le ton, quelqu'un peut le faire sans qu'on parle de la haine, mais aussi, il est nécessaire de savoir que il y a des personnalités qui peuvent... parce que c'est leur nature, être en train de parler avec chaleur, avec un ton élevé, mais il faut regarder par la suite qu'est-ce qui suit. Est-ce qu'il va dans le sens d'inciter? Parce que c'est l'incitation à la haine qui est la chose qu'il faut le plus prévenir, il faut absolument endiguer pour que l'on n'arrive pas à la violence. Parce que la haine, je peux avoir une haine passive contre quelqu'un ou contre un groupe de personnes. Cette haine passive-là n'est pas celle qui intéresse les gens, mais c'est la haine active. Lorsqu'elle devient active, elle incite à la violence, elle conduit les gens ou les masses vers une mobilisation contre une personne ou un groupe de personnes, soit ceux qui sont au pouvoir, soit une ethnie quelconque. C'est à ce moment-là que ça devient dangereux, et là, ça devient de l'incitation à la haine, de l'incitation à la discrimination, de l'incitation à la violence, et là, il faut trouver des mécanismes pour agir. C'est pour cela que je dis, le processus doit être un processus où les gens identifient, classifient et régulent. Ensuite, mais il faut également de la persuasion, il faut s'adapter au contexte congolais, parce que moi je suis Mourega, j'ai une relation de plaisanterie avec le Mouemba ou avec le Moulouba. Bon, nous pouvons nous dire nos choses entre nous, et puis vous venez dire non, c'est de la haine. Non, ce n'est peut-être pas ça qu'il faut appeler haine. Donc voilà un peu quelques éléments que je peux donner. Il y a des contextes dans lesquels il faut absolument agir, et il faut adapter les concepts qui nous viennent d'ailleurs à la situation réelle du Congo.
Merci professeur Nopeski Biswa. Nous allons maintenant donner l'occasion aux auditeurs qui sont en train de nous appeler pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Monsieur le ministre Patrick Muyaya, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Après c'est l'Osangola de Kisangani, province de la Tchopo. Tout en saluant ces appels à la cohabitation pacifique, à mon humble avis, je les considère comme une boucle répétitive et itérative. Car, à ce jour, tout cela sont déjà faits, y compris les accords avec le pays voisin. C'est pourquoi beaucoup parviennent à conclure que l'ennemi des Congolais serait Congolais lui-même. Et pour prévenir au discours de la haine, il faudra que les Congolais prennent ses responsabilités en main. Car les responsables de la famille ou parents doivent veiller sérieusement et rigoureusement à la gestion de sa famille.
Monsieur le ministre Patrick Muyaya.
Écoutez, j'ai suivi les avis de l'auditeur. Bon, l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Je n'aimerais pas qu'il ait raison, parce que, bon, mais fort malheureusement, l'expérience du quotidien au regard de certaines de nos attitudes tendent justement à confirmer son assertion. Aujourd'hui, il faut regarder les défis auxquels nous devons faire face en tant que pays. Il faut regarder les défis de nos jeunes, parce qu'au-delà de tout, tous ces discours se développent parce que, malheureusement, les structures de l'État ou les structures formatrices n'ont pas toujours rempli leur mission en termes de la connaissance de l'autre, en termes de la connaissance de notre diversité. Moi, pour ce qui nous concerne, lorsque nous parlons par exemple du changement de narratif, c'est parce que nous pensons qu'il est aujourd'hui important pour la République démocratique du Congo de mettre en avant ce que nous avons comme diversité culturelle, que chaque culture, le Murega, comprenne la culture Bashi, que le Mulumba comprenne la culture du Swahili, pour que tous puissent être finalement en mesure de se dire nous appartenons tous à une même patrie, quelles que soient nos divergences culturelles ou nos différences d'alimentation ou de cuisine. Nous devons tous converger pour un objectif commun qui est le développement de nos communautés et de là de la République démocratique du Congo. Et donc il y a un travail d'éducation qui doit se faire, et ici les écoles doivent mettre nos alliés, les églises aussi et tous les acteurs sociaux finalement, parce que ce comportement, excusez-moi, malheureusement c'est vivre à la base, c'est vivre dans les plus bas échelons de la société, et c'est là que ça devient dangereux, parce que c'est des comportements qui peuvent aussi s'enraciner. Et donc, je prends à cœur ce qu'il dit, mais je m'insurge sur le fait que le Congolais ne peut pas être aperçu comme l'ennemi du Congolais, et si tel est le cas, nous devons faire en sorte que cela soit différent.
Patrick Muyaya, vous êtes porte-parole du gouvernement congolais. Et comment, à votre avis, peut-on rassurer ces populations vivant sur les territoires congolais et qui se sentent en insécurité du fait qu'elles sont indexées pour la simple raison qu'elles appartiennent à une certaine communauté?
Alors, quoi, je pense que j'entends beaucoup, notamment de la part du Rwanda, vouloir s'éterniser autour du discours disant qu'au Congo, il y a de la stigmatisation. Écoutez, dans tous les pays du monde, il y a toujours des susceptibilités entre les peuples, mais il ne faut pas les exacerber, parce que la volonté de l'autre côté est claire, il y a besoin d'une exacerbation du conflit. Si le M23 était un mouvement populaire dans le Rutshuru, qui est peuplé d'abord de Hutu, ensuite de Tutsi et d'autres communautés, je pense qu'ils auraient trouvé des alliés. Pourquoi les populations fuient-elles lorsque les rebelles du M23 ou les terroristes du M23, pour le dire, avec leurs complices, viennent avec leurs armes, si c'est pour défendre les communautés? Et donc, tout ça, ce sont des arguments fallacieux qui ne tiennent pas. Et aujourd'hui, nous tous, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous devons comprendre la complexité de notre pays, la diversité, lire l'histoire et la géographie, pour savoir qu'il n'y a pas de meilleure formule pour nous de lutter contre ces excès qu'en nous connaissant et en partageant ce que nous avons le plus en partage, à savoir le pays, la République démocratique du Congo. Et donc, de ces points de vue, pour nous, au niveau du gouvernement, nous mettrons tout en place pour taire toute forme de discours qui peut prêter à confusion, toute forme d'insinuation. Et d'ailleurs, je me souviens avec les directeurs du BCNUDH avec qui nous débattons sur ces plateaux, j'ai réagissais à un de ces tweets de manière la plus ferme pour dire que tout acte lié à la stigmatisation des appels à la violence doivent être dénoncés, condamnés et sanctionnés. Je tiens à redire ici que des points de vue, que ce soit pour le président de la République ou pour le Premier ministre, c'est clair et ce sera sans pitié.
Abdelaziz Thioy, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kananga au Kasaï Central.
Maître Alidor Mampouya, avocat au barreau du Kasaï Central et résident dans la ville de Kananga. De nombreux appels à la paix et à la cohabitation pacifique auxquels on assiste ces derniers temps se justifient par rapport au regain des images et discours de haine et de division lancés par certains politiciens et notables en mauvais positionnement qui pensent que la meilleure façon de se faire une bonne santé politique et surtout pour avoir la chance d'être élu aux élections qui s'annoncent pour l'année prochaine consiste à opposer le peuple et à diviser les communautés. C'est pourquoi, pour éviter le pire dans l'avenir, il faut sanctionner de manière exemplaire les auteurs des discours de haine et des divisions entre le peuple, et surtout chercher à prôner l'unité du Congo et de son peuple pendant ces moments où le pays fait face à une agression extérieure. Et s'il y a la léthargie et négligence du traitement de ces dossiers par les autorités, on risque d'exhumer les chefs des mondes de la sécession et des guerres intercommunautaires, et cela coûtera cher au pays.
Monsieur Abdelaziz Thioy,
je pense que Maître Alidor pourrait trouver d'ailleurs une réponse dans ce que le ministre Mouyaya a dit. En réalité, c'est le manque d'arguments qui amène certains acteurs sur ce terrain-là. D'ailleurs, si je me réfère aux 6 critères du plan de Rabat, parce que c'est ça qui nous sert d'élément de référence pour déterminer si un discours peut être classé comme haineux, ou incitant à la violence ou à la haine raciale ou ethnique et autres, nous nous référons à ces 6 critères. Et parmi ces 6 critères, il y en a un qui est très important, qui est lié à l'identité de l'auteur. Si vous êtes acteur politique et que vous diffusez ce type de discours, évidemment, vous tombez facilement sous ce seuil. Vous atteignez le seuil à partir duquel on peut considérer effectivement que le discours est haineux. Et en cela, je suis d'accord qu'il y a une nécessité de véritablement sanctionner. Est-ce que la loi n'a de sens et ne peut être efficiente qu'à travers son application, c'est-à-dire son application de façon indiscriminée, c'est-à-dire que la peur de la sanction amène évidemment quelquefois aussi à changer de comportement, même si il est important dans un contexte comme celui de nos pays post-conflit de beaucoup plus mettre l'accent dans la prévention au niveau de l'école, dès le très jeune âge. C'est comme ça qu'on construit le vivre ensemble et c'est extrêmement important de pouvoir le faire.
Monsieur Dupuis, c'est qui dit soir. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis Ubundu, dans la province de la Tchopo.
Antoine Lombo, depuis le territoire d'Ubundu, province de la Tchopo. Pour le cas de la RDC, depuis l'avènement de la décentralisation territoriale, la cohabitation entre Congolais du Sud et d'ailleurs pose problème suite aux intérêts surtout de la gestion de Respublica qui revient à 80% provincial, un caractère autochtone implicitement. L'impréparation de la décentralisation est une conséquence que nous vivons aujourd'hui sur terrain dans toutes les provinces sans exception aucune. La xénophobie a tendance à naître en RDC suite aux multiples attaques que le pays subit par ses voisins. Le respect et la considération mutuelle peut aider à cette problématique.
Professeur Nopes Kibiswa.
Merci beaucoup. Je veux dire que l'auditeur aborde un sujet très important pour notre pays. L'administration par les originaires est un grain qui va détruire notre pays, qui va le séparer, parce que nous sommes dans un pays où le tribalisme était en train de descendre petit à petit depuis Mobutu avec ses discours qu'il avait multipliés, Tata Bo, Moko, Mama Bo, Moko et consorts, et la nomination des gouverneurs non originaires, des administrateurs du territoire non originaires, de toutes les autorités, ces brassages des tribus contribuaient à faire que, comme son Excellence Mouyaya l'a dit, que le Moulouba puisse se sentir chez lui au Katanga et que le Katangé puisse se sentir chez lui au Congo central et que le Kivusien puisse se sentir chez lui, ainsi de suite. Et ça, nous sommes en train, avec l'administration, pas les originaires, nous sommes en train de de détruire notre pays et il faudra que les politiciens réfléchissent pour que nous revenions dans l'administration par les non-originaires. Une autre chose que je voulais indiquer, c'est que il y a d'une manière ou d'une autre la nécessité de pratiquer ces éléments des échelles où nous apprécions à quel moment un discours devient dangereux. Et là, il y a trois échelles auxquelles j'aime bien me référer. L'échelle de Rabat, auxquelles M. Abdoulaye a fait allusion, mais il y a l'échelle de Dolport également, qui est beaucoup plus pratique, parce que l'échelle de Rabat qui donne six éléments, mais ça laisse un peu trop l'espace à l'appréciation des juges ou des personnes qui se réunissent. Et parfois, c'est difficile d'arriver à un compromis, mais dans la persuasion, on peut arriver à quelque chose. Mais l'échelle d'Olport est plus facile à pratiquer parce que il vous dit, regardez bien dans une société, si vous avez de la discrimination verbale, comme ce que son Excellence avec lequel a commencé, il a dit, on dit Mukongo Akabakate, Mulouba Vantar, mais nous avons vécu avec ça depuis toujours, ça n'a jamais amené ni au génocide, ni à quoi que ce soit, nous vivons avec ça. Donc cette discrimination verbale-là est un peu quelque chose qui est là et que nous vivons avec, mais quand on monte au deuxième niveau, on avance petit à petit vers les dangers, l'évitement et la mise à l'écart de l'autre, là on avance vers la direction dangereuse, et surtout quand on arrive au troisième niveau avec la ségrégation juridique où les lois sont maintenant faites pour faire que les gens d'une même ethnie se regroupent contre les autres, et ça existe chez nous, et là ça devient dangereux. Et le quatrième niveau, c'est l'agression physique. Et nous observons des agressions physiques par-ci par-là. Quelqu'un est agressé simplement parce qu'il n'est pas de ce côté-là. Enfin, c'est le génocide. Quand on arrive au génocide, eh bien, c'est l'extermination. Et lorsqu'on applique cette échelle-là, on peut facilement dire où est-ce que nous commençons pour prévenir. Et c'est ça que je recommande à notre gouvernement.
Nous sommes à la fin de l'émission, professeur Dopeski Biswa. Que faire pour prévenir les discours de haine? Ça sera sous votre conclusion parce qu'on est à la fin de l'émission.
Que faire? C'est comme je l'ai déjà dit, nous devons faire un effort pour prévenir, pour essayer de gérer la situation, pour essayer de résoudre les problèmes qui sont les causes de cela et également transformer la situation. Et l'éducation, la sensibilisation, la conscientisation permettent de commencer le travail de prévention, mais la répression et la négociation, la persuasion, doivent intervenir pendant la période de la gestion de la situation et il faut agir. Il ne faut pas rester au niveau des discours.
Merci Abdelaziz Thioy. Il faut prévenir les discours de haine. Qu'est-ce que vous proposez? Ça sera sur votre conclusion.
Absolument. Nous avons, avec l'UNESCO, sorti récemment d'ailleurs, sous l'égide du ministère de la Communication, une liste de recommandations et qui résume à peu près ce que le professeur vient de dire. Il faut beaucoup investir dans l'éducation, la formation et la sensibilisation. Le maître mot, c'est la prévention. Il est possible de le faire. Il a toujours existé des mécanismes culturels ou communautaires qui ont permis à différentes composantes de vivre en harmonie pendant des décennies. Pourquoi subitement il y a ce déchaînement de haine ou de violence ou d'hostilité ou simplement les uns vis-à-vis des autres? Parce qu'évidemment, il y a des facteurs qui servent de fil conducteur. Il faut les identifier aussi, essayer de travailler là-dessus. Il faut revoir aussi l'arsenal législatif et réglementaire. Et en cela, il faut aussi responsabiliser les acteurs des médias comme vous, également tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, mais il faut aussi, quelquefois, investir dans des aspects qui relèvent de la sanction, de la répression. Merci.
Merci, Monsieur le ministre Patrick Muyaya. Il faut prévenir les discours de haine. Qu'est-ce que vous proposez? Ça sera sous votre conclusion.
Écoutez, ce qu'il y a à proposer, c'est que d'abord, sur l'émission de la haine, chacun a un rôle à jouer. Il y a évidemment une responsabilité au niveau politique, et ce que nous faisons au niveau du gouvernement. Il y a une responsabilité au niveau des médias, c'est pour ça que nous parlons d'ailleurs de salubrité médiatique avec le président de la République durant les États généraux. Des points de vue, il y a un travail que nous faisons de manière étroite avec les structures professionnelles pour barrer la route à toute forme de discours de haine et de racisme. Mais je pense aussi que c'est une question de responsabilité sociale dans nos familles, dans nos églises, Il faut qu'on partage ce qui nous unit. Ce n'est que de cette manière qu'on sera en mesure de construire, à mon avis, un pays plus beau qu'avant. Et donc, nous disons non au racisme et à toutes ces antivaleurs, et le gouvernement fera sa part pour nous assurer que nous vivons dans un pays pacifié et où toute la communauté qui sont chez eux est libre de faire ce qu'il doit faire pour développer le pays.
Merci à vous, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, à Monsieur Abdulaziz Thioy, au professeur Dompès Kibiswa, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Billy Landry Betou, qui était à la technique, et à Donna Madimba, qui a réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Okapi.